Radio Prague, les informations. Bonjour, en visite en Belgique, le président Klaus n'a pas conseillé aux Belges un divorce à la Tchécoslovaque. Le gouvernement a donné son aval à la hausse de la TVA et puis en tennis, Lucie Šafářová éliminée, il ne reste plus que 3 Tchèques en lice à Roland-Garros. Le président de la République, Václav Klaus, a achevé ce mercredi sa visite de 2 jours en Belgique. Il s'agissait de la première visite officielle du chef de l'État tchèque dans le royaume. Avant sa rencontre avec le roi Albert II ce mercredi, Václav Klaus a été reçu notamment par le Premier ministre Yves Le Terme. À l'issue de leur entretien, le président tchèque s'est refusé devant la presse à recommander une scission de la Belgique semblable à celle qui a abouti au divorce à l'amiable entre Tchèques et Slovaques en 1993. Václav Klaus a toutefois précisé que la question n'avait pas été évoquée avec Yves Le Terme. Par ailleurs, le président tchèque, au programme duquel aucune visite des institutions européennes ne figurait, a indiqué que son pays ne prévoyait pas d'intégrer la zone euro dans un proche avenir. Le gouvernement a approuvé ce mercredi l'amendement à la loi devant permettre l'augmentation du taux de TVA à 14% à partir de 2012, puis à 17,5% en 2013. Actuellement, un taux réduit de 10% est appliqué sur la plupart des biens et services. L'information a été confirmée par le ministre des Finances, Miroslav Kalousek. Cette hausse de la TVA, qui sera encore débattue au Parlement, doit contribuer notamment au financement de la réforme envisagée des retraites. L'OCDE a confirmé ce mercredi qu'elle prévoyait un taux de croissance économique de 2,4% pour la République tchèque cette année. Le chiffre est semblable à celui annoncé en novembre dernier. Pour 2012, l'OCDE prévoit un taux de 3,5%. Il s'agit de pronostics plus optimistes que ceux de la Commission européenne et du ministère tchèque des Finances. L'OCDE pense que la forte demande en provenance de l'étranger contribuera à la croissance de l'économie tchèque. Celle-ci devrait toutefois être freinée par les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement afin de réduire le déficit des finances publiques. Les syndicats des sociétés de transport ont lancé un préavis de grève mercredi. Selon le chef de l'Union syndicale des transports, une grève pourrait être organisée dans le courant du mois de juin si le gouvernement continue de ne pas tenir compte des revendications des syndicats et ne modifie pas ses projets de réforme sociale. Les syndicats des transports routiers, ferroviaires et urbains participeront à cette grève. Le Premier ministre Petr Nečas a réagi à cette annonce en déclarant qu'il trouvait regrettable les activités des syndicats et qu'il refusait, et je cite, « le jeu à la nécessité de poursuivre cette discussion ». Après avoir atteint l'espace aérien allemand, le nuage de cendres en provenance d'Islande suite à l'éruption du volcan Grindstone est arrivé en République tchèque dans l'après-midi de mercredi. Selon l'Institut hydrométéorologique tchèque, les cendres devaient rester environ 24 heures et pourraient se répandre au-dessus d'un quart du territoire du pays. Toutefois, aucun aéroport ne devrait être fermé et le trafic aérien ne devrait pas être perturbé, la concentration de cendres étant faible. Depuis mercredi matin, le volcan islandais n'est plus en éruption. On passe au sport et au tennis. Seul tchèque en lice à Roland-Garros ce mercredi pour les premiers matchs du deuxième tour. Lucie Šafářová a été battue par l'Allemande Julia George, tête de série numéro 17 en 3-7. Après avoir remporté la première manche, Šafářová menait pourtant 4 jeux à 2 dans la deuxième manche. Il ne reste donc plus que 3 joueurs tchèques encore en course sur la terre battue parisienne. Petra Kvitova, tête de série numéro 9 et Lucie Radetska chez les femmes et Lukáš Rosol chez les hommes disputeront leur match du deuxième tour jeudi. Et puis en football, la finale de la Coupe de République tchèque oppose Mladá Boleslav à Sigma Olomouc ce mercredi soir à Jihlava. Un joueur français participera à cette finale sous le maillot de Mladá Boleslav. Il s'agit de Noël Alexandre Mendy, premier français à être arrivé dans le championnat tchèque en 2003. Le vainqueur du match sera qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. On termine avec un mot de météo. Comme ces derniers jours, le soleil reste largement présent sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Philippes. Des nuages pouvant entraîner des orages feront leur apparition dans l'après-midi dans la moitié ouest du pays. Les températures varient entre 24 et 28 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et celle d'Anna Kubishta que vous retrouvez tout de suite.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Larguet pour ce bulletin d'information et bienvenue dans cette nouvelle plage d'actualité. Ce 25 mai, la journée mondiale des enfants disparus, dédiée à tous les jeunes qui fuguent et qui rencontrent des problèmes de maltraitance en famille ou en foyer. Nous en parlerons en début d'émission à l'occasion d'une collecte nationale pour financer l'association qui gère cette ligne téléphonique d'urgence. Puis nous parlerons football avec la suite du feuilleton Slavia qui pour l'heure semble trouver une issue favorable. En effet, le club endetté et menacé de disparition vient d'obtenir de justesse sa licence. Puis ce sera la rubrique du mercredi. Vous le savez, la rubrique du mercredi, c'est l'histoire. Bonne écoute de ce programme. Ce 25 mai, c'est donc la journée mondiale des enfants disparus, également commémorée en République tchèque, où depuis 17 ans fonctionne une ligne téléphonique d'urgence pour les enfants en détresse. C'est le myosotis qui est le symbole de cette journée consacrée aux enfants disparus. Dans plusieurs langues, comme l'anglais, myosotis signifie « ne m'oublie pas » ou comme en tchèque, il est associé au souvenir. Ce souvenir, c'est aussi rester vigilant et au vu des statistiques d'appels au secours enregistrées depuis 17 ans par la ligne téléphonique anonyme 116-111 en République tchèque, la situation va plus en s'aggravant qu'en s'améliorant. L'an dernier, sur un total de plus de 265 000 appels, dont certains un peu sérieux, 646 enfants ont pu se confier alors qu'ils venaient de s'échapper de leur maison, de leur foyer ou encore parce que leurs parents les avaient jetés dehors. Peter Porubski dirige la Linka Bezpečí, la ligne de sécurité en français.
Depuis 2007, le nombre de cas graves ne cesse d'augmenter, notamment les cas de bizutage, les problèmes personnels ou les tendances suicidaires.
La ligne d'urgence dont le numéro est d'ailleurs unique pour toute l'Europe est gratuite et anonyme et dans certains cas, les membres de l'association transmettent un dossier aux organismes compétents. Peter Porubski.
Pour ce qui est des cas que nous devons transmettre à d'autres organisations, que ce soit la police ou les services médicaux d'urgence, ça arrive en moyenne deux fois par semaine.
Le numéro vert 116-111 fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais avec le développement des moyens de communication, les jeunes peuvent également chatter avec des conseillers ou bien encore envoyer des emails pour obtenir des renseignements, un soutien. Alors, quel est le profil des jeunes qui ont recours au service de l'association? Peter Porubski.
Il s'agit aussi bien de filles que de garçons dans une tranche d'âge d'environ 15-17 ans. En général, la fugue est liée à une situation familiale de crise, à des problèmes graves au sein de la famille, à des problèmes d'entente familiale ou à des problèmes de communication. Souvent, nous avons également des problèmes de maltraitance, d'abus sexuels ou d'abandon.
Toute cette semaine, l'association qui gère la ligne téléphonique d'urgence organise une grande collecte nationale destinée à récolter des fonds. La ligne coûte en effet chaque année quelques 20 millions de couronnes et cette année, la part de fonds européens injectés dans son budget ne représente plus que 3% contre les 5% de 2010. 27% sont accordés par l'État et le reste des moyens nécessaires doivent être cherchés auprès de sponsors privés ou par les collectes. Les dons peuvent être effectués sur un compte en banque ou en achetant un pins pour 30 couronnes distribuées tout au long de la semaine. Plus d'informations au www.linkabespeci.cz. C'est la fin du calvaire pour le légendaire club de football pragois du Slavia Prague, champion de République tchèque en 2008 et 2009, et qui, suite à de graves problèmes financiers, risquait d'être relégué en 3e division. La Fédération tchèque de football, présidée par Ivan Hašek, avait décidé au début du mois de mai de ne pas accorder au club la licence nécessaire pour qu'il garde son statut professionnel et puisse évoluer au plus haut niveau. Le Slavia avait fait appel de cette décision et grâce à l'investissement apporté par la société Natland, lui permettant de s'acquitter de certaines de ses dettes, le club s'est vu finalement attribuer la dite licence. Pierre Ménian.
Pour le Slavia Prague, qui fêtera l'année prochaine son 120e anniversaire, 2010-2011 a été une année pour le moins chaotique. Incapable de payer les salaires de ses joueurs et de son personnel depuis janvier dernier, le club avait accumulé une dette de plus de 10 millions de couronnes, environ 400 000 euros. Dans le même temps, la société britannique Enic, ancien actionnaire principal du Slavia, continue de lui réclamer plus de 100 millions de couronnes, plus de 4 millions d'euros, une somme que le club devra verser avant la fin du mois d'octobre. Autant de soucis financiers qui n'ont pas manqué d'affecter les performances sportives du Slavia, seulement dixième de la Gambrinusliga, le championnat national, à une journée de son terme et qui surtout compromettait fortement l'avenir du club. Une relégation administrative en troisième division, le premier niveau amateur, aurait constitué une première depuis 1964-65, saison durant laquelle le club, mal aimé du parti communiste, avait évolué en deuxième division. Après une première décision négative, la commission de la CMFS, chargée de l'attribution des licences, a finalement accordé la fameuse licence au Slavia Prague pour des raisons que développe Ivan Hašek, qui présidait cette commission.
Il y avait 4 points que le Slavia ne satisfaisait pas lorsqu'il a présenté sa requête au délégué chargé de l'attribution des licences. 4 points qu'il satisfait désormais. Concrètement, les dirigeants du club ont précisé la structure de ses propriétaires en présentant la liste de ses actionnaires. Deuxièmement, ils ont fourni les quittances de dette pour l'année 2010 signées par les joueurs, les employés et l'encadrement de l'équipe. Troisièmement, ils ont apporté la preuve que le club s'était acquitté de ses dettes vis-à-vis de l'État en transmettant un relevé de virement bancaire. Enfin, quatrième point, il était évident que le club devait disposer à l'avenir de ressources suffisantes pour pouvoir évoluer en première division professionnelle.
Les dirigeants du Slavia étaient sous le feu des critiques de leurs supporters, qui avaient notamment provoqué l'arrêt du match aller de demi-finale de la Coupe de République tchèque en envahissant le terrain. Suite de quoi le club s'était vu infliger une amende de 750 000 couronnes et avait hypothéqué toutes ses chances de remporter une épreuve qualificative pour la Ligue Europa. Mais les gestionnaires du Slavia, grâce à l'apport financier de Natland, sont tout de même parvenus, en un peu moins d'un mois, à remplir les conditions imposées par la CMFS. Pour Miroslav Platil, le directeur général du club, l'heure est donc au soulagement.
Bien évidemment, je suis très content. Désormais, nous avons une base à partir de laquelle nous pouvons travailler. On va continuer à stabiliser la situation de notre société et par la suite l'améliorer. C'est seulement la première étape.
Une première étape qui, pour l'historien du football Vladimir Zapototsky, n'est qu'une simple formalité. Selon lui, l'attribution de cette licence ne résout en rien les problèmes du Slavia. La question des 100 millions de couronnes, dues à la société Enic, n'a en effet pas encore été réellement évoquée par la commission en charge de l'attribution des licences. La société Natland devrait apporter 40 millions de couronnes, environ 1,6 million d'euros. Quant à Miroslav Plasil, il a déclaré que le club ferait son possible pour limiter ses dépenses. Ainsi, aucun joueur ne devrait être recruté à l'intersaison. Flou quant à ses ambitions, la société Natland a cependant annoncé qu'elle détenait désormais 51% des parts du club et qu'elle travaillerait en collaboration avec son deuxième actionnaire principal, le ministre des Transports, Aleš Rybiček. Comme certains supporters du Slavia, l'historien Vladimir Zapototsky craint que ces négociations entre hommes d'affaires, qui n'ont que peu à voir avec le monde du football, finissent par dénaturer l'esprit du club. Un des clubs les plus titrés de République tchèque devra donc fournir encore bien des efforts pour que les commentateurs se concentrent uniquement sur ses résultats sportifs.
Dans cette deuxième partie d'émission, on passe à la rubrique du mercredi. Retour dans cette page d'histoire sur le centenaire de la mort de Gustav Mahler que nous venons de commémorer le 18 mai. Plusieurs événements échelonnés sur toute l'année rendront hommage à ce chef d'orchestre et compositeur de génie, contemporain et ami de Richard Strauss, Gustav Klimt ou encore Franz Kafka. Yarka Gisubelova s'est rendue à Yerlava pour y visiter la maison où le compositeur a vécu pendant 15 ans et qui est aménagée en musée dédié à la famille de Gustav Mahler, sa femme Alma, ses parents ainsi qu'à ses proches et amis.
Chapitre de l'histoire. Gustav Mahler est né le 7 juillet 1860 à Kalisztě, aux environs de Jihlava, une ville du plateau tchéco-morave. En octobre 1860, la famille avec le nouveau-né s'installe à Jihlava dans la maison située au numéro 4 de l'actuelle rue Znojemska, au bas de la place centrale, raconte l'historien d'art et guide au musée Mahler à Jihlava, Jakub Koumar.
C'est dans cette maison et dans la maison adjacente que Gustav Mahler a passé 15 ans de sa vie. Les origines de la maison remontent au XVIe siècle. Néanmoins, c'est au cours d'un remaniement réalisé au début du XIXe siècle, dans le style du classicisme, que le bâtiment a été surélevé d'un étage et orné d'une façade intéressante. Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de Gustav Mahler, en 1960, une plaque commémorative réalisée par le sculpteur Milan Knobloch a été inaugurée sur la façade de la maison.
Le processus d'émancipation des Juifs entamé en 1848 permet à la communauté juive de Bohême et de Moravie d'obtenir la pleine égalité de leurs droits, donc aussi le droit d'habiter dans les villes et d'ouvrir un commerce. Cela change complètement la vie des parents de Gustav Mahler, ainsi que le raconte Jakub Koumar.
Bernard Mahler toho využívá a když se Gustav Mahler narodil,
Bernard Mahler en profite et 2 mois après la naissance de son fils Gustav, il déménage à Jihlava. C'est dans cette maison appelée en mémoire de la famille la maison Mahler. Il installe une distillerie de vin dans l'aile donnant dans la cour et un débit d'alcool au rez-de-chaussée. Les parents de Gustav Mahler, c'était comme le feu et l'eau, comme le disait le compositeur lui-même. Le père était un homme ambitieux, énergique et assertif. La mère, Marie Hermanova, une femme maladive et sensible qui souffrait de dépression après la mort de 8 des 14 enfants du couple. Pour toutes ces raisons, la vie a été assez traumatisante pour Gustav Mahler, du moins pendant son enfance.
Le talent musical de Gustav Mahler se manifeste très tôt. Dès l'âge de 4 ans, il joue de l'accordéon et du piano et à 10 ans, il donne son premier concert public. À Jihlava, le jeune Gustav fréquente l'école primaire et le lycée allemand. En 1875, il part étudier au conservatoire de Vienne et fait simultanément des études de philosophie. Après cela, il ne retourne que sporadiquement à Jihlava pour la dernière fois en 1889. Les 15 années passées dans cette ville auront toutefois une influence décisive sur le reste de la vie de l'artiste, souligne notre guide.
Jihlava a beaucoup influencé Gustav Mahler. Jihlava, Iglau, était un petit îlot allemand dans le milieu tchèque, à mi-chemin entre Prague et Vienne. Une importante communauté juive y était implantée. Ainsi, au débit d'alcool de son père, le petit Gustav entendait des chansons juives. Comme Jihlava était une ville de garnison, la musique militaire a également influencé sur sa création, ainsi que la chanson populaire tchèque, dont l'inspiration se fait entendre notamment dans la première symphonie, ainsi que dans ses autres opus, sans oublier la musique liturgique et la musique religieuse juive. En dépit de ses origines juives, Gustav Mahler ne se rendait pas souvent à la synagogue. Attiré par la thématique chrétienne, il aimait aller à l'église Saint-Jacques.
La synagogue n'existe plus aujourd'hui à Jihlava. À son emplacement, un parc avec une statue de Gustav Mahler a été inauguré en 2010 en l'honneur du 150e anniversaire de la naissance du compositeur. La vie à Jihlava, telle qu'elle se présentait au temps de la jeunesse de Gustav Mahler, nous est rapprochée par une exposition thématique au musée Mahler, dans laquelle Jakub Koumar nous sert de guide.
Náměstí, na kterém se setkávají právě zmíněné 3 kultury, které v Jihlavě žijí.
3 cultures se rencontrent à Jihlava dans la deuxième moitié du 19e siècle, allemande, juive et tchèque. Auparavant, la culture allemande prédominait. Jihlava était complètement allemande. Néanmoins, après 1848, la culture tchèque s'est imposée avec le mouvement du réveil national. Face à cette réalité, Gustav Mahler se sent 3 fois apatride, comme il le disait, en tant que tchèque parmi les autrichiens, en tant qu'autrichien parmi les allemands et en tant que juif dans le monde entier qui n'est bienvenu nulle part.
a jako žid na celém světě. Nikde, že prý nebyl vítán.
Fixé à Vienne, Gustav Mahler accepte pourtant des offres de venir travailler dans des villes tchèques et moraves. Ainsi, en 1883, il dirige l'orchestre du théâtre municipal de l'Olomouc. En 1885, il obtient à Prague le poste de chef d'orchestre du théâtre allemand. En 1888, il retourne encore à Prague, mais pour un court séjour. Seulement, la première exécution de sa 7e symphonie à Prague donne lieu à une rencontre de ses admirateurs et amis, parmi lesquels des intendants des premières scènes européennes, des chefs d'orchestre et des écrivains pragois de langue allemande, Max Brod et Franz Kafka. Une exposition au troisième étage de la maison Mahler à Jihlava est intitulée Gustav et Alma.
Alma Mahlerová, rozená Schindlerová, byla takzvanou milenkou umělců.
Alma Mahler, née Schindler, muse et femme fatale, a attiré dans son orbite de nombreux grands artistes. Ainsi, le peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka figure parmi ceux qui souhaitaient l'épouser. Or, c'est Gustav Mahler qui a fini par l'épouser en 1902. Alma aime la musique et elle est très déçue lorsque son mari l'interdit de composer. Leur mariage est heureux et malheureux à la fois, mais les deux époux se soutiennent réciproquement au cours de leur vie, ce qui n'est pas toujours facile, d'autant que Gustav Mahler était rempli de contradictions. Son âme était partagée entre l'esprit lumineux, la mélancolie et le désespoir suicidaire. Après la mort de leur fille, à l'âge de 5 ans, la crise est inévitable et Alma vit une aventure avec Walter Gropius.
Alma Mahlerová si poté začíná jistý románek s Walterem Gropiem.
Walter Gropius est un architecte, designer et urbaniste allemand, naturalisé américain et fondateur du Bauhaus, mouvement clé de l'art européen de l'entre-deux-guerres. En 1915, il épouse la veuve de Gustav Mahler, Alma. En 1907, après une carrière à Leipzig et à Vienne, Gustav Mahler part à New York pour rester pendant plusieurs saisons le directeur musical du Metropolitan Opera de New York. En dépit de ses succès, l'artiste ne s'adapte pas entièrement au milieu américain et est nostalgique. Mon temps viendra, disait-il, face aux difficultés qu'il rencontrait pour faire accepter ses œuvres. Il faudra un demi-siècle pour que le public mondial accepte le message de ce compositeur.
Z Vídně musí odejít kvůli politické situaci.
Mahler est contraint de quitter Vienne pour des raisons politiques. Pour pouvoir être admis comme directeur de l'opéra de la cour de Vienne, il doit se convertir au christianisme. Il faut dire qu'il le fait de son plein gré. Le christianisme l'attire plus que le judaïsme. Il n'empêche qu'en fin de compte, la conversion n'a aucun sens, car les origines juives de Gustav Mahler s'avèrent être un obstacle insurmontable et il doit quitter Vienne. À New York, où il s'installe, son état de santé se dégrade rapidement et il meurt peu de temps après, en 1911.
On posléze umírá roku 1911.
Transporté malade en Europe et hospitalisé à l'Institut Pasteur à Paris, Gustav Mahler meurt à Vienne le 18 mai 1911 à l'âge de 51 ans. Son ex-épouse Alma ne cessera de promouvoir son œuvre et de veiller sur son héritage. Après son divorce avec Walter Gropius, Alma épouse un auteur artiste, Franz Werfel, romancier et dramaturge pragois de langue allemande proche de Franz Kafka ou de Max Brod, des figures de proue de la culture judéo-allemande de Prague. Et c'est à ces personnalités qu'une partie de l'exposition au musée Mahler est consacrée. On y trouve aussi le nom de Josef Hoffmann, architecte né à Brtnice, près de Jihlava. Josef Hoffmann a créé la pierre tombale de son ami Gustav Mahler. La tombe se trouve au cimetière de Grinzing, près de Vienne. Sur la pierre, il n'y a pas d'inscription, sauf le nom du compositeur, ce qui était son souhait. Ceux qui me cherchent savent qui j'étais et les autres ne doivent pas savoir. Les parents de Gustav Mahler sont inhumés au cimetière juif de Jihlava, où ce génie de la musique classique a passé les 15 premières années de sa vie et qu'il a influencé pour le reste de sa vie.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, et ce, en podcast, en streaming, mais également en retranscrit. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy.